Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et on commence donc tout de suite avec cette nouvelle concernant l'état de Nouvelle-Galles du Sud et plus particulièrement la ville de Sydney. Il y a quelques minutes, on a appris le recensement de 10 nouveaux cas par les autorités sanitaires. Au total, on en est donc à 21 cas actifs qui sont liés au cluster qui a été détecté à Bondi. Alors l'idée d'un confinement n'est toujours pas à l'ordre du jour. En revanche, la chef du gouvernement local, Gladys Berejiklian, a décidé d'étendre l'obligation du port du masque dans les lieux clos à toute la ville, et ce jusqu'à la fin du mois.
All of Sydney will now be required to adhere to that compulsory mask wearing indoors for hospitality workers when we're going shopping, when we're going grocery shopping, when we're going to events inside. It's only when you're really eating or drinking indoors at a venue that you can't or shouldn't be wearing a mask. But in every other circumstance, if you live or are in Sydney, you must wear a mask for an additional week beyond Wednesday midnight.
La Grande Barrière de Corail est en danger. C'est l'avis donné aujourd'hui par l'UNESCO qui dénonce dans un nouveau rapport l'échec du gouvernement australien à agir contre le changement climatique. L'organisation internationale appelle le gouvernement à reclasser le récif corallien, classé donc au patrimoine mondial de l'humanité, à un statut qu'il définirait comme en danger. Mais le gouvernement, qui a déjà répondu dans la matinée, compte s'y opposer. La ministre de l'Environnement, Susan Lee, a même fait part de sa stupéfaction en découvrant ce rapport.
This is a complete subversion of normal process, and we made very clear our strong disappointment, even our bewilderment, that our officials have been blindsided in the way that they have. And we are here to fight for the reef, and we are here to challenge the decision. This decision was made, as I said, without due process. It was made on the basis of a desktop review. This decision was flawed. Clearly, there were politics behind it.
Alors, l'UNESCO, animé par un agenda politique, ça n'est pas du tout l'avis du docteur Nicolas Cassoul. Lui, il dirige les enquêtes menées par l'organisation Greenpeace et il partage totalement l'avis de l'UNESCO. Il pense effectivement que sans une action résolue de la part du gouvernement australien pour lutter contre le réchauffement climatique, il est responsable, ce même gouvernement, en tout cas en partie, de la destruction de la Grande Barrière de Corail. On rappelle à ce sujet que la Grande Barrière de Corail, il y a déjà la moitié qui est complètement morte.
We have to take a really ambitious action on climate change if we want to protect what's left of the Great Barrier Reef. The UNESCO warning could not be any clearer. The Great Barrier Reef is in danger because of the Morrison government's failure to act on climate change. The Australian government is taking a sort of not my problem attitude to the Great Barrier Reef and its protection under the UNESCO system.
L'une des deux mamelles de la coalition, le parti des Nationals, a depuis hier un nouveau leader. Il s'agit de Barnaby Joyce, qui redevient donc vice-premier ministre, un poste dont il avait été écarté il y a 3 ans, après avoir admis qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec l'une de ses attachées parlementaires, mais aussi après qu'il était accusé par d'autres de harcèlement sexuel. De l'eau a depuis visiblement coulé sous les ponts, puisqu'il a été officiellement investi ce matin par le gouverneur général David Hurley, au cours d'une cérémonie à laquelle ont assisté sa femme et ses enfants.
Aye. Barnaby Thomas Gerard Joyce, do swear that I will truly serve the people of Australia in the office of Deputy Prime Minister and Minister for Infrastructure, Transport and Regional Development, and that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Australia. So help me God. Thank you very much.
Alors en plus de cette nomination de Barnaby Joyce, qui remplace donc Michael McCormack et qui récupère son portefeuille, c'est-à-dire celui du développement régional et des infrastructures, un remaniement plus large du gouvernement de Scott Morrison n'est également pas exclu dans les jours à venir. Alors cette nomination, bien sûr, elle n'a pas manqué de faire réagir, en particulier au vu des casseroles qui traînent derrière Barnaby Joyce. Écoutez par exemple ce qu'en pense la travailliste Annika Wells.
Barnaby Joyce may be the only dinosaur to ever come back from extinction. In a national reckoning about the appalling treatment of women in workplaces, we now have this. Apparently, the idea that there is no permanent consequences for anyone about this culture but the women themselves.
Le chef du Parti travailliste, Anthony Albanese, est complètement sur la même ligne. Il est même allé jusqu'à accuser le gouvernement de ne s'intéresser qu'à lui-même plutôt qu'aux Australiens.
Barnaby Joyce is a failed former deputy prime minister. What we've got from this government is a self-obsessed government just focused on itself, not focused on the needs of the Australian people.
Et puis au-delà de cette affaire de harcèlement sexuel qui traîne derrière Barnaby Joyce, ce qui dérange l'écologiste Adam Bandt, c'est le climato-sceptisme qui caractérise le nouveau leader des Nationals.
Well, there's been a coal-fired coup in the coalition. A climate denier has been replaced by a coal hugger, and it makes climate action in Australia that much more difficult.
Il n'y aura pas de rencontre entre Joe Biden et le nouveau président iranien, Ibrahim Raisi, ce dernier, qui est issu de la branche ultra-conservatrice du régime des Mollahs, l'a annoncé dès sa première conférence de presse. Il n'a pas l'intention de rencontrer le président américain ni de négocier à propos de son programme de missiles ou encore du soutien militaire que l'Iran apporte à d'autres pays dans le monde. En revanche, il souhaite poursuivre les discussions à propos de l'accord sur le nucléaire, un accord signé avec les grandes puissances en 2015, puis dénoncé ensuite par Donald Trump. Des États-Unis, il attend d'abord ce nouveau président iranien, il attend donc d'abord et avant tout qu'il lève les sanctions actuellement imposées à l'Iran.
The United States is obliged to lift all oppressive sanctions against the Iranian nation, as it has been emphasized in the present administration as well as the future administration. Removal of sanctions and its verification will be central to our foreign policy. Regional issues or the missile program are non-negotiable.
Et des sanctions, justement, l'Union européenne vient d'en imposer de nouvelles à la Biélorussie, qui le mois dernier, je vous le rappelle, avait fait atterrir de force un avion commercial de la compagnie Ryanair pour arrêter un opposant politique. Alors ces sanctions, elles touchent plusieurs dignitaires du régime, mais aussi des proches du président Loukachenko. Et ces sanctions, elles sont également soutenues et appuyées par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. On fait le point avec Anissa El-Jabri pour RFI.
Un communiqué conjoint des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni avant l'officialisation de la décision des 27 et des termes sans équivoque. Je cite « Nous partageons la même profonde inquiétude vis-à-vis des attaques constantes du régime de Loukachenko sur les droits humains, les libertés fondamentales et la loi internationale. » Concrètement, les sanctions annoncées ce lundi comprennent, c'est classique, une interdiction de voyage et un gel d'avoir à l'encontre de dizaines d'entités publiques et de responsables biélorusses. L'UE va sanctionner, elle, les ministres des Transports et de la Défense, mais aussi le principal investisseur étranger dans le pays, l'homme d'affaires russe Mikhail Goutseriev. Les 27 vont aussi interdire de nouveaux prêts à Minsk, restreindre les achats de tabac, de pétrole et de potasse. Le Royaume-Uni a de son côté ciblé une société, BNK, une entreprise enregistrée à Londres qui négocie des contrats d'exportation pour les hydrocarbures biélorusses. Ce train de mesures, la chef de file de l'opposition biélorusse s'en est félicitée. Svetlana Tikhanovskaya a évoqué des sanctions, je cite, sans précédent et très puissantes.
Beaucoup plus près de nous, en Indonésie, la ville de Jakarta qui se démarque du pouvoir national par un relatif progressisme a annoncé qu'elle veut taxer les riches pour relancer l'économie locale, bien évidemment, très durement touchée par l'épidémie de coronavirus. Alors l'idée, ce serait de prélever 35% des revenus des ménages les plus aisés de la capitale indonésienne. On en parle avec Gabriel Maréchaux de RFI.
C'est en parlant de changements profonds que la ministre de l'économie indonésienne a annoncé fin mai sur YouTube le lancement de la politique budgétaire annuelle.
Le budget de 2022 doit se focaliser sur la reprise socio-économique. Et il faut pour cela un renforcement des fondations de notre système fiscal. La mise en œuvre de réformes structurelles pour que la reprise soit optimale.
À la tête du Forum indonésien pour la justice fiscale, Amaf Tushan n'a pas été déçu quand la ministre a ensuite annoncé une taxation inédite de 35% pour les revenus excédant de 190 000 euros par an.
J'ai vraiment été surpris et heureux. Cela fait 10 ans qu'on essaie de faire de la fiscalité un débat public. Mais jusque-là, les niveaux de taxation étaient assez favorables pour les plus riches.
Et si cette taxation des riches que Amav Tushan attendait depuis longtemps arrive finalement en pleine pandémie mondiale, ce n'est pas un hasard.
2021, c'est l'opportunité de repenser notre système fiscal. Et si on ne le fait pas, 2022 sera vraiment difficile, car la loi impose à l'État de ne pas dépasser un déficit public de 3%. Et avec la pandémie, l'année dernière, il a atteint 6%.
Taxer les riches semble enfin promis à un bel avenir. D'après un rapport de la société de conseil Knight Frank, l'Indonésie est le pays qui connaîtra la plus rapide croissance de grandes fortunes dans les 5 prochaines années. Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI.
Enfin, une nouvelle venue du Canada qui fait un peu rêver ici en Australie et dont on aimerait que les dirigeants à Canberra s'inspirent un petit peu. Puisque, eh bien, donc au Canada, les citoyens et les résidents permanents qui sont complètement vaccinés et qui produisent un test Covid négatif pourront, à partir du 5 juillet prochain, revenir de l'étranger et ce, sans avoir à subir une quarantaine de 2 semaines. Voilà, on aimerait beaucoup que la même chose soit appliquée en Australie. Et pour finir, un petit mot sur la météo du jour ici en Australie. 15 degrés et des nuages à Perth, 17 degrés à Adélaïde où la grisaille pourrait se transformer dans la journée en averse. En revanche, du soleil à Melbourne avec 16 degrés, 18 degrés à Sydney, 22 à Brisbane, 27 à Cairns et jusqu'à 31 degrés à Darwin où le temps sera particulièrement humide aujourd'hui.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.